La filière gérontologique Ondaine-Haute-Loire-Nord-Est organisait le jeudi 7 novembre à la Forge du Chaumont-Feugerolles la journée Senior Sentez-vous bien. Après une série d'ateliers le matin, l'après-midi laissait place à des conférences. Radio Ondaine, partenaire de cet événement, vous propose d'écouter, notamment, les enjeux du bien-être avec David Valentin, directeur de la résidence autonomie Quiétude du Chaumont-Feugerolles et responsable de la politique gérontologique de la ville.
Donc je vais essayer de vous préciser quels sont les enjeux du lien social par rapport à la santé. Alors ces enjeux-là, ils ont pu être évoqués à travers les deux dernières interventions, puisque les diététiciennes ont bien précisé que le lien social était aussi un des fondamentaux pour avoir une nutrition de qualité. Et j'ai envie de dire, pour le sport adapté, c'est pareil. Parce que finalement, faire du sport tout seul, chez soi, dans son vélo d'appartement, est-ce qu'il y en a qui ont essayé ? Est-ce que vous avez tenu bien longtemps ? Au bout de combien de temps vous avez remis votre vélo d'appartement en vente sur le bon coin ? Le lendemain, on est d'accord. Alors si, je vais faire un petit peu d'humour, il y a une période où ça a bien fonctionné. C'était à l'époque où, le dimanche, vous aviez le choix entre la messe ou Véronique et Davina. Et à cette période-là, effectivement, certains messieurs devenaient beaucoup moins croyants et préféraient rester. Mais ça, c'est révolu. Donc aujourd'hui, effectivement, par rapport à la santé et par rapport au bien vieillir, il y a un vrai enjeu sur cette notion de lien social. Alors, aujourd'hui, on est dans une société où on vieillit de plus en plus, où l'espérance de vie a augmenté pendant un certain nombre d'années. Mais finalement, aujourd'hui, il y a une vraie question qu'il faut se poser. C'est que pendant des années, c'est vrai qu'on a essayé, la médecine, les progrès de la médecine ont permis d'ajouter des années à la vie. Alors c'est bien beau d'ajouter des années à la vie, mais il est fondamental, bien évidemment, d'ajouter de la vie aux années. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à amener de la vie aux années ? C'est en continuant à avoir une vie sociale et des liens sociaux de qualité, puisque ces liens sociaux vont conditionner le fait de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Donc finalement, on verra au cours des différentes choses que je vais vous présenter l'importance capitale que ça a de continuer à avoir des réseaux sociaux, une vie sociale. C'est quoi le risque quand on n'a plus de vie sociale ? Ça a été évoqué également dans les précédentes interventions, c'est l'isolement social. Et l'isolement social, vous verrez qu'il a des impacts qui sont dramatiques sur la santé. Donc aujourd'hui, vivre longtemps, vivre vieux, vivre heureux, c'est aussi vivre en société. Mais on verra aussi que malheureusement, la société dans laquelle on vit, elle a tendance à faire en sorte que les seniors soient un peu mis à la marge de tout ça. Et finalement, c'est aussi le rôle de tout le monde de faire en sorte que les personnes, même vieillissantes, puissent continuer à avoir un rôle et jouer un rôle dans la société. Parce que c'est par ce biais-là que les liens sociaux continuent à exister. Juste, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, on ne va pas se noyer dans les chiffres, j'en ai noté pas mal. Pour vous, quelle est la part des plus de 60 ans, qui se retrouvent sans liens sociaux réguliers ? Je dis bien réguliers. C'est-à-dire qui voient des personnes que très peu. Combien ça représente, à votre avis, pour les plus de 60 ans ? Alors, non, le tableau est un peu noir. Aujourd'hui, il y a 25% des plus de 60 ans qui n'ont pas de liens sociaux réguliers. Et quand on arrive à l'âge de 75 ans, la proportion, elle monte à combien, à votre avis ? 40%. Donc on se rend compte, et on verra comment ce phénomène se met en place, que plus on vieillit, finalement, plus on prend le risque d'être isolé et de se priver de ces liens sociaux qui sont pour ça indispensables et essentiels pour continuer à vivre dans les meilleures conditions. Alors, d'ailleurs, il y a une étude récente qui a été menée sur 50 ans à l'université d'Oxford qui montre qu'à tous les âges de la vie, le premier facteur de bien-être, le premier facteur pour se sentir bien dans sa vie, c'est les liens sociaux. Qu'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, c'est le premier facteur qui fait qu'on est bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc ça ne concerne finalement pas qu'uniquement que les seniors. D'ailleurs, ce parallèle-là, on peut le faire par rapport à une période qu'on a tous connue, le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Chacun chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais le babo, comme on dit chez nous, en gaga, hein, j'avais la lourde. Je me nourrissais n'importe comment. Je faisais pas de sport parce que quand j'allais faire du vélo, je prenais un PV. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je commençais à me sentir pas très très bien dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent pas bien dans sa tête ? On broge et surtout, ça a des répercussions dans son corps. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Et effectivement, il y a un vrai impact et tout ça, on a tous pu le connaître. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de société, effectivement, sur le fait de pouvoir faire en sorte qu'à tout âge, et puis aujourd'hui par rapport au public à laquelle ces conférences sont destinées, c'est les seniors. Alors, il existe aussi des disparités par rapport à tout ça, bien évidemment. Ça dépend des secteurs et ça dépend aussi de l'environnement. Maintenant, il faut quand même, le tableau n'est pas si noir que ça, il faut quand même savoir qu'il y a une majorité de personnes, de seniors, qui par chance, par motivation, continuent à avoir une vie sociale, continuent à avoir des activités. Malheureusement, il y en a qui restent sur le bord du chemin. Et c'est pour ces personnes-là, effectivement, qu'il faut qu'on mette en place des actions, nous en tant que professionnels, et qu'il faut aussi que ces personnes-là aient conscience du risque qu'il y a derrière tout ça et de l'enjeu qu'il y a de continuer à essayer d'avoir des relations. On verra tout à l'heure comment on peut le faire. Maintenant, j'aimerais qu'on évoque ensemble les facteurs, justement, de rupture de ces liens sociaux dont on parle. Les facteurs d'isolement, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'ils se situent. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on se désocialise et qu'on perd et qu'on s'isole ? C'est quoi, à votre avis, les facteurs principaux de l'isolement ? Alors, la retraite, ça en fait partie. La retraite, ça fait partie effectivement de ces facteurs, et lors du passage à la retraite. Et alors, lors du passage à la retraite, c'est assez spécifique. Alors, c'est pareil, comme je vous dis, c'est pas linéaire, ça dépend du contexte sociologique dans lequel on a fait ça, quand on était actif, dans lequel on a évolué. Mais il existe effectivement des personnes qui ont voué toute leur vie à leur travail, qui, en dehors du boulot, avaient comme seule activité le boulot. Et ces gens-là, quand ils arrivent à la retraite, vous imaginez le grand vide qui se trouve. Parce que durant leur vie, ils n'ont pas existé en dehors de leur travail. Ils n'ont pas existé dans l'association sportive dans laquelle ils faisaient du sport, dans l'association du village dans laquelle ils militaient, ils s'investissaient. Donc là, effectivement, le passage à la retraite peut être une grande rupture et peut constituer dès 60 ans, alors pas 60 ans parce que maintenant la retraite est un peu plus tard, mais en tout cas peut constituer effectivement un des premiers facteurs d'isolement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, à votre avis, comme facteur d'isolement et de perte des liens sociaux ? Les revenus, effectivement. Les revenus aujourd'hui, la diminution des moyens financiers, la baisse des revenus. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une vie sociale, il faut avoir des moyens, on est bien d'accord. Il faut avoir des moyens parce que pour pouvoir pratiquer des activités, pour pouvoir aller manger au restaurant... Quand on parlait de nutrition tout à l'heure, ça nécessite des moyens financiers. Sauf que ces moyens, aujourd'hui, on sait très bien que les niveaux de retraite... et puis, on prend l'exemple, dans la vie professionnelle, on avait des niveaux de revenus qui étaient assez importants. Et au moment du passage à la retraite, ces niveaux de revenus diminuent. Pourtant, les charges qu'on a restent les mêmes. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir cette vie sociale ? Là-dessus, il faut revoir peut-être ses ambitions. Et puis, il faut regarder aussi s'il n'y a pas des aides qui peuvent être apportées pour pouvoir continuer à avoir cette vie sociale. Ça existe, on y reviendra dans la suite du propos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur qui peut engendrer, juste encore une fois, cet isolement ? Alors, la santé, effectivement... la santé, c'est quand il arrive un coup dur, hein, un gros problème de santé, ça peut être aussi un des facteurs qui fait qu'on s'isole et qu'on perd les relations sociales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Oui, mais la perte de mobilité, on va dire que c'est sur un événement brusque de santé, parce qu'on verra que de façon linéaire, après, dans l'avancée en âge, ça peut être compensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, la perte du conjoint. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, madame, parce qu'effectivement, la perte du conjoint, aujourd'hui, à l'âge, pour les personnes qui sont isolées et qui ont plus de 75 ans, la première cause de l'isolement, c'est le veuvage. Donc là-dessus, effectivement, c'est un point clé. Et aujourd'hui, nous, on se rend compte, par rapport à toutes les actions qu'on a pu mettre sur la ville du Chambon, qu'un des premiers facteurs d'isolement social, c'est le veuvage. Malheureusement, quand l'isolement social il s'est installé, c'est très compliqué d'en sortir. Donc le veuvage est un moment difficile, mais c'est à nous, professionnels, effectivement, de repérer ces situations-là et de les prévenir. Et aussi, ce temps de conférence vous permet à tous de le savoir. Le veuvage est un moment difficile, mais ce n'est pas un moment où il faut se couper de ses relations sociales, même si c'est difficile, parce que c'est là qu'on prend le risque, effectivement, de devenir vraiment isolé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur d'isolement ? On a dit le passage à la retraite, on a parlé des moyens financiers, on a parlé des événements de la vie, une maladie ou autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qui sait l'isolement géographique ? Aujourd'hui, il y a encore 50 ans, les familles vivaient encore, on va dire, dans le même espace géographique. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui vit aux États-Unis, vous en avez un autre qui vit... Donc vous n'avez plus cet environnement familial qui est quand même qui vous permet d'avoir des liens sociaux de qualité. Donc oui, l'éloignement et puis l'éclatement des cellules familiales aussi aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont seules au moment de la retraite, qui sont divorcées, qui sont séparées. Donc cette modification des cellules familiales induit aussi des situations d'isolement. Et puis, pour terminer, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve de... Plus on vieillit, plus on se retrouve seul. Mais pourquoi, en fait ? Mais tout à fait, madame. C'est évident. C'est-à-dire que plus on avance dans l'âge, plus les réseaux sociaux qu'on avait, ils se délitent, parce que les êtres qui nous étaient chers, les êtres avec qui on avait ces liens-là, finalement, s'en vont les uns après les autres. Donc ça veut dire que malgré tout cela, il faut continuer à construire des relations. Et puis par rapport à ça, c'est un phénomène très sociétal aussi. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce que finalement... Vos amis disparaissent, mais pourquoi ? Parce que vos amis sont de la même génération, exactement. Parce qu'on est dans une société qui est très clivante entre les générations. Et là, il y a un vrai travail de fond à faire, parce que finalement, si il y avait beaucoup plus d'intergénération dans notre vie au tous les jours, on serait moins confrontés à ce phénomène-là. Mais effectivement, aujourd'hui, on a encore tendance à avoir des activités, à partager des activités qu'avec les personnes qui sont de notre génération. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place. Ça évolue. Au niveau national, ça évolue. Aujourd'hui, parce que je suis trempé là-dedans, mais j'ai des amis qui ont 80 ans, 85 ans, 90 ans, mais j'ai aussi des amis qui en ont 20 ou 30 de moins que moi. Là. Donc voilà, c'est aussi ça, la réussite du maintien des liens sociaux, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on est âgé, qu'on n'est pas en capacité de, ou bienvenue dans des groupes sociaux d'autres générations. Mais cette place, il faut que les autres générations l'acceptent et la fassent. Donc là, il y a un vrai travail aussi à faire là-dessus. Donc finalement, on se rend compte, voilà, c'est les principaux motifs qui peuvent nous désocialiser. Donc déjà, c'est bien de les connaître. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où il y en a un qui s'allume, il faut se dire, oula, attention, là, je risque effectivement de m'isoler. Je voudrais nuancer le propos, parce qu'en fait, l'isolement et la solitude, le danger, c'est quand elle est subie. Quand elle est subie, c'est qu'on ne la souhaite pas. Parce qu'il faut savoir qu'à tous les âges de la vie, la solitude, elle peut être choisie et appréciée par certains. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance à vouloir faire en sorte que tout le monde se socialise. Mais il y a des gens... Le sentiment de solitude, en plus, c'est un sentiment très personnel. Je vais prendre un exemple. Il y en a qui, pour avoir le sentiment, effectivement, qu'ils ont des relations sociales de qualité, ils ont besoin d'avoir un groupe social qui voit une fois par semaine. Il y en a d'autres qui ont besoin d'appartenir à deux groupes sociaux, trois groupes sociaux. Donc finalement, c'est comme pour manger, alors je dis ça, mais on a tous un appétit, une appétence différente. Mais c'est pareil au niveau des liens sociaux. Il y en a qui ont besoin de très peu de liens et il y en a qui ont besoin de beaucoup de liens sociaux. Donc à chacun d'entre nous, d'entre vous, de savoir quels sont ses besoins. Est-ce que j'ai besoin de voir du monde régulièrement ? Souvent, pas trop souvent. Mais ça, c'est pas égal. Donc le but, c'est pas de faire en sorte que tout le monde se voit tout le temps. Voilà. C'est que chacun puisse trouver les ressources dont il a besoin pour exister socialement à travers ce qui est important pour lui. Quoi. Mais par contre, quand cet isolement il est subi, là, ça devient difficile. C'est-à-dire quand la personne elle se sent seule et qu'elle ne trouve pas les ressources pour arriver à trouver des solutions à cet isolement, c'est là qu'il y a un vrai risque. Et ce risque-là, c'est le thème de la journée, c'est un risque pour la santé. On l'a dit tout à l'heure, je m'isole, je suis seul, je mange moins bien, je me nourris moins bien, psychologiquement je me sens moins bien, et donc forcément à un moment ça va rejaillir sur mon corps. Et puis ça va au-delà de ça, parce que l'isolement social, il est beaucoup plus pervers que ça. Le manque de relations sociales, ça induit bien sûr, on l'a dit, une dégradation de la santé, mais aussi c'est un marqueur d'inégalité. Parce que plus on est isolé, plus on renonce aux soins, et plus on renonce à ses propres droits. On devient asociable. Je ne veux plus me faire soigner, je ne veux pas qu'on m'aide. Donc on est dans un processus qui est hyper dangereux. Parce que ce repli sur soi, en fait, il amène à ces positions-là. Et ça va au-delà de ça, c'est que ça amène aussi carrément du désengagement et de la méfiance vis-à-vis des institutions. Ça veut dire que quand on est isolé, qu'il y a quelqu'un qui va venir taper à votre porte en vous disant « J'ai peut-être des solutions à vous proposer pour sortir de l'isolement. » « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?» Donc en fait, une fois que l'isolement s'est installé, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'il devient très compliqué d'en sortir. Donc nous, professionnels, nous devons être acteurs de la prévention, continuer à maintenir ces liens sociaux, et les seniors doivent aussi avoir conscience de ce risque qu'ils prennent. Vous savez, c'est quand on devient aigri. Hein, on se replie sur soi, enfermement sur soi, on se met à distance de tout. Et là, il y a un vrai danger, un vrai risque. Par rapport à ça, on va revenir à tout à l'heure, je ne sais plus, on me disait, oui, c'est pas adapté. Voilà. Aujourd'hui, il y a un vrai problème par rapport à ça, on l'a dit, qu'il y avait cette notion de génération, mais finalement, le vrai problème par rapport à l'inclusion sociale des personnes âgées, c'est qu'on vit dans une société qui est très âgiste. L'agisme, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? C'est qu'on est dans une société qui est terriblement discriminante par rapport au fait qu'on devient vieux. Pourquoi? Pourquoi cette société, elle met à la marge finalement un peu les seniors? C'est insidieux, parce que dans le discours, les hommes politiques, ils vont tous vous dire « Oui, alors, oui, les seniors ont une place. » Mais dans les faits, quel discours sous-entendu est tenu régulièrement? C'est lequel le discours? Tout à fait, madame. C'est qu'on vit dans une société consommée, produire. Alors oui, les seniors, ils consomment, mais ils ne produisent plus rien. Donc ils coûtent du pognon à la société. Oui, mais c'est terrible. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait en tenant ce discours-là, qui est insidieux? Parce que, on ancre dans la tête de ceux qui bossent, on ancre dans la tête des jeunes qui sont à l'école, de tout le monde, que nous, moi qui bosse, c'est pour payer vos retraites, c'est pour payer vos loisirs, c'est pour payer votre dépendance, que c'est une charge. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, ça clive complètement le monde du travail. Et pourtant. Mais bien évidemment, et puis ça va au-delà de ça. Si on enlevait les retraités de la société, qu'est-ce qui se passe? L'économie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse la gueule, elle s'effondre. C'est logique. Demain, s'il n'y avait plus papy et mamie pour garder les petits-enfants, il faudrait ouvrir 15-20 crèches sur les territoires. Si demain, il n'y avait plus les retraités pour prendre des responsabilités dans les municipalités, dans les associations, combien d'associations survivraient aujourd'hui? Est-ce que vous entendez les politiques, les médias, tenir des discours en disant « Mais heureusement qu'on a les seniors, heureusement qu'on a les vieux pour faire vivre nos associations, pour garder les petits-enfants, pour faire du bénévolat. » Est-ce que c'est suffisamment valorisé à votre goût? Donc on est bien d'accord que l'enjeu du lien social, il est aussi lié à un problème de société, parce que la société ne reconnaît pas la place et le rôle social que jouent les retraités et les seniors dans la société dans laquelle on vit. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Il y a des gens qui s'engagent, qui militent pour ça. Mais il y a un vrai travail de fond à faire parce que finalement, quand on met les personnes à la marge d'un fonctionnement, on les exclut. C'est pour ça que je vous parle d'agisme. Donc voilà un des... Et puis pareil, si on regarde ça même à l'échelle du rôle et de la... Quel devrait être le rôle et la place sociale d'un senior, des anciens, des vieux, vous les appelez comme vous voulez, dans la société. Avant, comment ça fonctionnait? Parce que c'est la société moderne, c'est la société capitaliste qui a amené tout ça. sans faire de politique. Mais si on regarde, et ça existe encore dans certaines communautés dans le monde, quelle est la place, normalement, qui devrait être dédiée aux anciens ? Former, chef, le sage, celui qui détient et qui transmet le savoir. Et ça, c'est un rôle social. De transmettre le savoir, c'est un vrai rôle social. Eh bien, aujourd'hui, on prive les anciens de ce rôle social-là, qui est leur premier rôle social. Parce que c'est ça, en fait, le rôle. Pourquoi ? Parce que transmettre du savoir, transmettre une histoire. Et ça, alors on essaye de le faire, mais c'est mal fait. Et c'est mal fait, et c'est même pire que ça, ça n'est pas fait, parce que justement, ils sont dépossédés de ce rôle, et c'est le premier rôle social qu'ils devraient avoir. Pourquoi, à votre avis, c'est compliqué ? Parce que ça existait pendant des générations, et aujourd'hui, c'est en train de s'effondrer depuis les années 1945. C'est cette société, ça va... Le développement économique, le développement industriel, le développement technologique allait tellement vite qu'aujourd'hui, le discours qu'on a tendance à entendre, c'est « Putain, mais les vieux, ils sont complètement dépassés, ils sont has-been, ils comprennent rien au monde dans lequel on vit, donc on ne va pas aller leur demander comment il faut faire et comment il faut que ça fonctionne. » On est bien d'accord. Mais voilà, j'essaie juste de vous montrer pourquoi aujourd'hui, les causes qui font que finalement, il y a une rupture de ces liens sociaux... Et pourquoi c'est si compliqué finalement de continuer à les entretenir ? Parce que d'un côté on vous dit il faut le faire pour vivre longtemps, et de l'autre côté on vous dit mais de toute façon vous ne servez plus à rien, vous êtes bon à rien. Voilà des déterminants pour vous aider à comprendre un petit peu. D'ailleurs, juste pour vous montrer le clivage qu'il y a entre les générations, je vais faire un petit jeu. N'ont le droit de répondre que ceux qui ont moins de 50 ans. Si, il y en a quelques-uns. 55. Si la personne âgée, je m'adresse aux jeunes là-bas, si la personne âgée était une fleur, allez-y, donnez-moi des noms de fleurs. La marguerite. Alors, je vous le dis, hein, le jeu, je peux le faire 20 fois, ça sera toujours la rose, la pensée, la marguerite qui sortiront. Mais la marguerite, elle reflète parfaitement ce clivage générationnel qu'il y a dans nos sociétés et qui est un facteur qui limite les liens sociaux. Qu'est-ce qu'on fait avec la marguerite ? Je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe par rapport aux autres générations, par rapport aux seniors. C'est-à-dire que papy et mamie, on l'aime bien quand on vient à la maison et qu'ils sortent la boîte de bonbons et qu'ils donnent un billet. Par contre, quand on est au volant et qu'on est pressé pour aller au boulot et qu'il y en a un sien qui roule un peu doucement, il est un peu chier. Et quelque chose qui symbolise encore cette rupture et cette cassure, le samedi, je vais faire mes courses. Putain, mais oh. Moi, j'ai que le samedi pour aller me faire mes courses. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils sont là pourquoi le samedi ? Pour voir du monde, parce qu'ils ont besoin de lien social. Donc, vous vous rendez bien compte que l'image de la marguerite, elle symbolise parfaitement cette « je t'aime » et puis il y a des moments où tu me gonfles. Mais ça, c'est la société dans laquelle on vit qui nous conditionne petit à petit à devenir un peu agiste. Tous et toutes. Du coup, donc on l'a dit effectivement que c'est un vrai déterminant de santé d'avoir des liens sociaux, vous l'avez bien compris, la santé peut rapidement se dégrader, on en a parlé. Et donc avoir une vie sociale, c'est se sentir bien dans son corps et se sentir bien dans sa tête, on est d'accord. Juste faire un petit focus sur les institutions, parce qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui sont présentes et les professionnels, il y a aussi des personnes qui travaillent dans des institutions. Les institutions sont... un peu diabolisé, hein, faut bien le dire. Et puis je sais que parmi les personnes, les seniors, il y en a peu qui ont envie de finir leur vie en EHPAD. Ça fait pas envie. D'accord ? Et pourtant, on pourrait se dire, putain, je suis tout seul chez moi, je vis toute seule chez moi, j'ai du mal à me socialiser. Et en fait, je pourrais aller poser ma valise dans un endroit, alors pas que les EHPAD, ça peut être une résidence autonomie, dans un espace de vie où il y a du monde. Alors oui, c'est une solution, finalement, ça a été... Alors oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des mauvais exemples, mais il y a aussi des bons exemples. Il y a aussi des très bons exemples au sein des structures. Et finalement, dans les structures, on est dans un modèle très sanitaire en France, c'est-à-dire qu'effectivement, nos EHPAD, nos résidences autonomie, on est dans un modèle très sanitaire. Très sanitaire, ça veut dire qu'il est centré sur le soin. Eh bien moi, je sais, alors Véronique Benvenuto est partie, il y avait le docteur Benvenuto qui était là, mais quand je travaillais avec elle à l'hôpital de Firmini, sur l'unité de soins psychogériatriques, Elle m'avait laissé, elle m'a dit, David, il faut qu'on développe une vie sociale de qualité au sein de ce service, donc avec les personnes atteintes de troubles cognitifs, et on va voir ce qui se passe. Donc tu montes un projet, donc on a développé de la vie sociale, on a mis en place une vie sociale spécifique des activités. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? Les gens allaient mieux, 50% d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en moins. Donc là, on mesure l'importance de cette vie sociale au sein même des structures. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon dans les structures, il n'y a pas une vie sociale, il n'y a pas des activités. Oui, c'est normal que j'en parle un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la seule façon de faire en sorte que les gens... on fait de la contention physique et de la contention chimique. On met des médicaments et on attache. Et les personnes, du coup, vont se dégrader beaucoup plus rapidement. Pareil, par rapport à ça, à votre avis, qu'est-ce qui a fait le plus de morts dans les EHPAD au moment du Covid? C'est l'isolement social. Aujourd'hui, avec le recul... Alors attention, je ne dis pas qu'on a fait n'importe quoi, parce qu'on était tous pareils. On nous a dit, il y a un petit truc qui va vous manger, on était tous comme ça. Parce qu'ils nous ont... Voilà, après la sauce, ils l'ont fait monter. Mais en réalité, c'est celle-ci. Donc vous mesurez l'importance de... ces relations sociales, que ce soit à domicile, que ce soit en structure, elles sont indispensables à la qualité de vie qu'on peut avoir dans ces environnements-là. Maintenant, quelles solutions on peut trouver? Alors, des solutions pour exister socialement dans les structures, c'est de développer, proposer un maximum d'activités aux personnes qui y vivent. Mais vous qui vivez, pour ceux qui vivent à domicile, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Vous en avez cité plein. Aller au club du quartier pour aller jouer à la coinche, m'investir dans les restos du cœur, aller participer, m'investir dans militer dans telle association, aller faire partie du club de marche. Donc finalement, vous avez toute une palette de possibilités qui sont offertes pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale de qualité. Par rapport à ça, il y a forcément des ressources que vous pouvez trouver sur les territoires. Ces ressources, où est-ce que vous pouvez trouver ces ressources? À qui est-ce que je m'adresse pour trouver des activités, pour trouver des endroits où je vais pouvoir me socialiser? Les mairies, les associations, les centres sociaux, les centres communaux d'action sociale, les CCAS. Et puis, ça va au-delà de ça. Parce que si je regarde à l'échelle de la filière dans laquelle, qui vous propose cette journée aujourd'hui, notre volonté, c'est que tous les partenaires du territoire, nous soyons capables d'orienter justement une personne qu'on croise vers ce type de dispositif. Donc voilà ce qui est important. Et puis, avant de conclure, juste dire qu'il y a un vrai enjeu politique par rapport à tout ça. Il y a un vrai enjeu politique parce que pour avoir une vie sociale, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit il faut... Ouais, mais au-delà des moyens, il faut que l'environnement il soit adapté. Un chiffre, en 2035, il y aura un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Un tiers. 30% de la population. Donc aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de la part des pouvoirs publics d'adapter tout l'environnement au vieillissement de la population. Parce que c'est un enjeu. Parce qu'avoir une vie sociale, c'est bien, mais il faut aussi que je puisse... Comment est-ce que je fais pour me rendre à mon activité? Comment est-ce que je fais, déjà, comment est-ce que je fais chez moi pour me préparer pour avoir une vie sociale? Si chez moi, pour aller faire mon activité, il faut que je descende 4 escaliers, si chez moi, ma douche n'est pas adaptée pour que je puisse me préparer, me pomponner pour aller au club, c'est déjà un facteur limitant. Donc effectivement, il y a des tas de choses à voir. C'est l'adaptation des logements, c'est... Pareil. Je vais à mon activité, il faut que je puisse. Si j'en vais aller aux toilettes sur la route, il faut que je puisse aller aux toilettes. Si j'ai besoin de me reposer, il faut un banc pour m'asseoir. Si, d'exemples, il y en a plein comme ça. Et puis pareil, il y a comment est-ce qu'on communique l'information sur l'offre de service, sur l'offre qu'on peut vous proposer. Parce qu'à l'ère du tout numérique, combien il y en a parmi vous qui savent se servir, qui savent aller chercher l'information parmi les seniors sur les outils numériques? Il y en a très peu. Donc l'idée, c'est celle-ci, c'est de se dire qu'en fait, il faut aussi que les pouvoirs publics, mais ça, c'est le rôle des collectivités territoriales, c'est le rôle des mairies, C'est le rôle des départements, c'est le rôle des régions, et puis c'est le rôle du gouvernement de donner les moyens, effectivement, aux politiques et aux pouvoirs publics d'adapter l'environnement au fait que les seniors puissent continuer à avoir une vie sociale. Parce que c'est conditionné par les moyens qu'on va déployer pour rendre l'accès possible aux activités. En conclusion, aujourd'hui, si on regarde ça même à l'échelle de l'humanité, si on regarde ça, il y a eu l'homme de Néandertal, il y a eu Homo sapiens derrière, mais en fait, il s'est toujours construit, et il a toujours grandi, évolué, et il a toujours réussi à gagner en bien-être à partir du moment où il s'est socialisé. On voit bien l'évolution à travers l'échelle de l'humanité. C'est la socialisation qui a amené l'allongement de l'espérance de vie. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parlait de l'enjeu du lien social. Et puis pour les professionnels, je l'ai dit et je le fais. Moi aujourd'hui, vous savez, il y a un monsieur Maslow qui a créé une pyramide en disant quels sont les besoins prioritaires et quels sont les autres besoins. Et il disait, lui, pour lui, le besoin prioritaire, c'est se nourrir. Mais on se rend bien compte que si on se nourrit tout seul chez soi, sans avoir une vie sociale, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Donc finalement, aujourd'hui, l'homme est un animal social, avec des besoins différents. Je l'ai évoqué, il y en a qui ont plus de besoins que d'autres. Mais ce besoin-là, finalement, il est, pour moi, fondamental, aussi fondamental que se nourrir, aussi fondamental que les autres besoins. Donc il ne faut pas le négliger, il a une importance capitale et c'est un des enjeux principaux de vieillir dans les meilleures conditions possibles et en étant le mieux portant possible. Les études le montrent, aujourd'hui, les personnes qui acceptent de vieillir, parce que ça aussi c'est important, les personnes qui continuent à avoir une vie sociale de qualité, et vieilliront mieux, pas forcément plus vieux, mais vieilliront mieux, et verront leur autonomie préservée le plus longtemps possible. Donc pour conclure cette journée, il faut manger correctement, mais toujours se faire plaisir. Il faut alors faire du sport, avoir des activités, et j'ai envie de dire, c'est déjà deux des principaux indicateurs et deux des principes majeurs de la longévité dans les meilleures conditions possibles.